Un cliché de Vincent Lambert, son image, vous savez, cette image que vous connaissez, qui circule en ce moment plus que jamais, dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux, son corps, parce que c'est bien ce que cette image représente, son corps donné en pâture au monde entier, et chacun, chacune a son point de vue sur ce corps, son idée, bien arrêtée, la gauche, la droite, le pape, le président, ma sœur, les collègues de bureau, ses médecins, mon boulanger, sa famille, tel journaliste, les avocats, tout le monde se déchire depuis combien de temps ? Depuis combien de temps cette image a-t-elle cessé de renvoyer à une personne pour devenir le lieu d'un débat d'actualité, d'un direct sur BFM TV ? Cette image qui est figée dans nos esprits, la tête sur l'oreiller, les yeux dans le vide, l'incommunicabilité, elle est devenue l'emblème des questions qu'on peut se poser sur l'arrêt de vie, sur le droit à la vie. Une image figée, c'est-à-dire un cliché, une copie, une image répétée à l'infini, sans vie, une image dont on n'interroge plus réellement rien. Tellement on l'a intégrée, ni la personne qu'elle représente, ni son obscénité. Le fait même qu'on la connaisse, cette image, que d'une photo prise dans l'intimité, elle soit devenue un cliché, c'est bien cela, l'obscénité, ce qui devrait rester hors de la scène, littéralement, et qu'on a fini par accepter.
Boomerang, spécial Cannes.
Une autre Cannes se réveille à cet instant.
France Inter, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui est un cinéaste qui interroge volontiers la mort et la figure de l'absent. Dans son dernier film, Être vivant et le savoir, présenté hors compétition en séance spéciale lors du dernier festival de Cannes, il raconte l'histoire d'un film qui ne se fera pas. Celui qui devait tourner avec son ami, l'écrivain et scénariste Emmanuel Bernheim, avant que celle-ci ne disparaisse, un récit intime, fragile, bouleversant. Bonjour, Alain Cavalier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. D'abord pour vous, est-ce que mourir c'est un droit ?
Ben, je pense que si on était un peu maître de sa mort, hein, et de l'heure de sa mort, et si on pouvait boire un liquide, scientifiquement maintenant c'est possible, qui vous mette dans un état de demi-sommeil, puis de sommeil éternel, la vie serait moins angoissante.
Ça vous pose des questions intimes, philosophiques, métaphysiques, cette question de la possibilité pour un individu de choisir sa mort.
Mais je pense que ça détendrait beaucoup les gens, au cours de leur vie. De savoir que ils ne sont pas maîtres de leur naissance, mais maîtres de leur départ.
Dans Tout s'est bien passé, paru il y a 6 ans, Emmanuel Bernheim nous faisait le récit d'une fille qui souhaite offrir à son père la liberté de mourir. Ce livre, vous souhaitiez en faire une adaptation pour le cinéma. Pour quelle raison, Alain Cavalier ?
Pour la raison, c'est que son père, à 89 ans, est victime d'un AVC. Il était en pleine forme et il se retrouve étendu, à demi paralysé. La vie ne l'intéresse plus, il a envie de s'en aller, mais comme il est paralysé, il peut pas l'exécuter, il peut pas s'exécuter. Alors il demande à sa fille, ce qui est quand même assez culotté, hein, de lui trouver un moyen de disparaître. Et elle le fait, elle lui trouve en Suisse à une heure et à un endroit où il boit la potion fatale devant un commissaire de police, un juge.
Mais vous, pourquoi en faire un film ? Pourquoi l'adapter ?
Alors moi je me dis, j'approche de cet âge. Et je me dis, s'il m'arrive quelque chose, je suis bien, je suis en forme. S'il m'arrive quelque chose, je suis sûr que j'aurai envie de m'en aller. Hein ? Et pourquoi est-ce que je ne le ferai pas ? Je le ferai.
C'est fou comme ça résonne en vous, Alain Cavalier. Dans cette adaptation, Emmanuel Bernheim aurait joué son propre rôle. Et vous, celui de son père. Pourquoi est-ce que vous teniez, vous, à tenir ce rôle ? Vous qui êtes très rare sur les écrans. Vous qui vous contentez souvent dans vos films de rester derrière la caméra.
Alors là, j'aurais fait une petite répétition générale, et puis j'aurais mis en route un dispositif de film un peu particulier pour ne pas écrire un scénario avec des acteurs, etc., etc. Elle l'a vécu, moi, je ne l'ai pas vécu, mais je serais surveillé par elle pour l'authenticité du film, hein. Et je voulais faire le portrait, surtout, d'Emmanuel Bernheim, d'une femme intelligente. Ah, c'est ça qui me passionnait.
Ça voudrait dire quoi, être intelligent, tiens ?
Ça veut dire une femme qui, dans son regard et dans sa parole, c'est lumineux, quoi. Ça va vite, c'est lumineux, les choses sont claires, le dialogue est rapide, et ça, ça me plaisait.
Mais qu'est-ce qui se passe, Alain Cavalier, quand l'intelligence s'éclate contre ce rocher qu'est la mort ? Le film que vous venez présenter à Cannes et qui sortira le 5 juin, il raconte donc, je le disais, l'histoire d'un film qui ne se fera pas. Quand est-ce que vous l'avez compris, ça, Alain ? Compris que ce projet d'adapter Tout s'est bien passé, ben, ça se ferait pas.
On devait commencer à tourner le film un mois après. Et elle me téléphone le matin en me disant je suis allé me faire une palpation, et puis j'ai un cancer du sein et je suis opéré dans quelques jours. Donc il faudra attendre quelques mois avant de faire le film. Et je lui dis on attendra. On a attendu, on a recommencé à préparer le film. Deuxième coup de téléphone, c'est passé au poumon. Et après, c'est passé au foie. Et un jour, je suis allé la voir, elle a mis un doigt sur sa tempe, comme ça. Elle m'a dit, c'est là, maintenant. C'était dans son cerveau. Et c'était la fin. Voilà. Et alors, ils ne vous ont pas dit si vous faisiez une chimio ou pas? À la fin du mois. C'est un petit incident de parcours mais pas une seconde. Pas une seconde, et je vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Hein? Qu'on tourne maintenant ou qu'on tourne dans quelques mois, quelle est la différence? Moi, je serais un autre dans 3 ou 4 mois, je ferais pas le même film. C'est tout ce que je peux dire. Hein? Et puis c'est tout. Et vous non plus, c'est ça qui est merveilleux. On fera le film avec ce qu'on est au moment où on tournera. Hein? Voilà. Bon, écoutez, mademoiselle Bernheim, hein, que la grâce descende sur vous. Voilà.
C'est un extrait bouleversant de votre film Alain Cavalier, Être vivant et le savoir. Un film comme un journal intime, en fait, où vous filmez les coulisses de la préparation de ce film, vos échanges avec Emmanuel Bernheim, alors que vous savez qu'elle est malade. À quel moment est-ce que vous avez su que cette matière que vous engrangiez donnerait naissance à un autre film, celui dont nous parlons aujourd'hui?
Je filme tous les jours. Hein? Donc, je me lève le matin, et puis je regarde la vie, et quand elle m'intéresse, je sors ma caméra et je filme. Quand la vie est un peu formidable, je l'enregistre. Donc, Emmanuel, elle faisait partie de mon journal. J'allais la filmer de temps en temps. À partir du moment de sa maladie, je l'ai très peu filmée.
Ça pose des questions de cinéma qui sont absolument passionnantes. Comment on fait pour filmer quelqu'un dont la vie est en sursis, quelqu'un dont on sait que la disparition est proche, quelqu'un qui sera bientôt un absent, puisqu'on en parlait?
Ce que je montre aux spectateurs dans le film, il y a encore l'espoir qu'elle guérisse. Je n'ai pas montré d'image où sa mort était définitive.
Vous auriez aimé la filmer plus?
Non, non, non. Au contraire.
Qu'est-ce que l'image permet de retenir de ce qu'on a aimé, Alain Cavalier?
Écoutez, quand même, c'est un artifice le cinéma, mais en même temps, il vous rend un tout petit peu éternel. Hein.
Quand même.
Moi, par exemple, je fais mon journal depuis 25 ans, je vais chercher sur une étagère, je vais visiter par exemple ma mère, qui est très vieille, hein, qui boit un peu trop de whisky, et j'ai ma mère en train de boire du whisky. C'est-à-dire qu'elle est là devant moi, comme au moment où je l'ai vue, vivante. C'est quand même un peu incroyable.
Vous l'avez filmé, l'absent. Alain Cavalier, je pense évidemment à des films comme Ce répondeur ne prend plus de messages, réalisé il y a 41 ans, mais aussi à un autre film qui lui répond, Irène, dans lesquels vous évoquez la disparition de la femme qui avait partagé votre vie pendant plusieurs années, Irène Tinck. Dans quelle mesure est-il possible pour vous de rendre visible l'absent?
Irène, je me suis posé le problème pendant toute la fabrication du film. Je voulais même, à un moment, demander à une actrice que j'adore, qui s'appelle Sophie Marceau, et je me suis dit, je vais aller voir Sophie Marceau, puis je vais lui faire faire quelques petites séquences de la vie d'Irène. Alors, je lui donnerai rendez-vous dans un café, je viendrai avec ma caméra, et je lui proposerai, en la filmant, hein, de venir de temps en temps me voir, de faire une petite séquence sur Irène. Et j'ai fini par l'abandonner. Mais je l'ai raconté au spectateur. Ça fait partie du film, mais je ne l'ai pas fait quand même. Et Irène, j'ai attendu 1 heure de film avant que le spectateur voie son visage. Et je me suis dit, au bout d'une heure, le spectateur va se dire, elle nous fait chier quand même, quelle tête elle a, hein. Et surtout qu'à un moment, je dis qu'elle avait été Miss France. Alors, on se disait, mais comment elle est, hein? Et puis finalement, j'ai pris une photo d'elle. Il y a 3 photos d'elle. Et qui, au bout d'une heure, prennent une force extraordinaire puisqu'on ne l'a pas vue.
Au fond, hein? Alain Cavalier, qu'est-ce que le cinéma a à voir avec la mort pour vous?
Ben, c'est-à-dire que il empêche la mort d'être éternelle, hein, puisqu'il conserve les visages. Et en même temps, il filme très bien la mort en marche, puisque Moi, je vois des visages que je filme depuis très très longtemps vieillir comme ça, et on voit comment on disparaît petit à petit, comment on se transforme.
Vous êtes en train de disparaître, vous ?
Oui. Non, mais je suis en train de disparaître. Je pense que c'est la dernière fois que je suis venu ici. Et c'est pas désagréable du tout.
Hein? C'est quand même pas la dernière fois que vous venez ici,
si,
à Cannes.
Si, je suis sûr. Même si je fais un autre film, et j'en ferai un autre, je ne reviendrai plus dans la foule, ça ne me correspond plus. Déjà là, c'est limite, mais après, ça sera au-delà de cette limite, le ticket n'est plus valable. Hein?
Celle dont le ticket n'est plus valable, alors depuis longtemps, peut-être que vous la connaissez, Alain, c'est la culture. Et son actualité qui, hélas, ne nous fera jamais défaut. Que se passe-t-il donc aujourd'hui ? Banksy à l'abordage, pas convié à la Biennale de Venise, le street artiste s'est quand même invité. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, on le voit encapuché exploser l'une de ses œuvres dans les rues de la ville avant de se faire déloger par la police. L'œuvre sous forme d'un tableau morcelé intitulé « Venise dans l'huile » représente un énorme navire de croisière au mouillage dans le canal qui borde la place Saint-Marc. Une manière pour Banksy de dénoncer l'élitisme de la prestigieuse manifestation d'art contemporain qui a tendance à bouder les artistes urbains.
Oh, I think a reader picking up this book will be absolutely entranced by this new world of human experience that it opens up.
Joka de force majeure, l'écrivaine omanaise Joka Alarti a été récompensée du Man Booker International, prestigieux prix littéraire qui sacre chaque année la meilleure œuvre du monde entier. Son roman Celestial Bodies, les corps célestes, met en scène à travers les amours et les espoirs de trois jeunes sœurs d'un village les lentes évolutions de la société omanaise après l'ère coloniale. C'est la première fois depuis la création du prix en 2005 qu'un écrivain du Golfe est récompensé. Face à elle, il y avait notre Annie Ernaux nationale. Cœur à elle.
Comédie Move à la maison de la radio, faites du bruit.
Tu es connecté sur Move.
Alors let's move. Ce soir, nos amis de Move investissent le studio 104 de la maison de la radio pour une soirée de talent et d'humour. Dès 20h30, retransmis en direct sur la page Facebook de la station et présenté par Romain de Snap & Mix. L'événement verra s'affronter quatre jeunes humoristes, Édouard Deloignon, Samy Bell, Elie Soussan et Abdelkader Yayoui. Le vainqueur sera choisi par le vote des spectateurs et des internautes en direct. C'est impec.
En même temps, il faut être honnête, Jean, nous n'avons malheureusement pas le temps de voir les films puisqu'il faut se préparer, se coiffer, choisir les robes.
Mais vous êtes très belle, Carole.
Merci, Jean.
Plus de beauté sur la croisette, car aujourd'hui on aura le temps d'aller voir le très attendu Mektoub My Love Intermezzo, nouvelle livraison d'Abdelatif Kechiche qui opère son grand retour dans la course à la Palme après le triple sacre de la vie d'Adèle en 2013. Compétition toujours, l'Italien Marco Bellocchio présente l'excitant traître sur un repenti de Cosa Nostra. Mais à Cannes, il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi de l'amour et la solidarité aussi. Ce soir, la croisette s'amuse à l'Eden Rock pour le gala très privé de l'AMFAR, fondation de recherche de lutte contre le sida, où l'on attend tout le Gotha et un concert de Maria Carré. Allez. Le cinéaste Alain Cavalier, invité de Boomerang ce matin pour Être vivant et le savoir, un film qui se compose d'images filmées avec votre petite caméra DV, une caméra qui vous suit partout, avec laquelle vous n'avez jamais cessé de documenter votre vie, on l'a compris. C'était l'objet d'ailleurs d'un de vos films qui s'appelait Le Filmeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être un filmeur, tiens ?
D'abord, c'est un rapport avec le filmé. C'est-à-dire que pour moi, entre celui qui filme et celui qui est filmé, c'est un vrai rapport humain. Hein ? Bon. Mais au début de ma vie, il n'y avait pas ces bijoux magnifiques de l'esprit humain, ces petites caméras là, qui prolongent votre cerveau immédiatement, vous enregistrez. Et il y avait des caméras comme des buffets Henri II, avec des équipes autour, etc. etc. Et donc, la vie n'était pas enregistrable immédiatement. Donc c'était une cérémonie de... Et ça m'a ennuyé au bout de 10 ans. Par rapport à ce que je vivais, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis. D'avoir une émotion, d'attendre 6 mois, des acteurs, la construction d'un scénario, de trouver de l'argent pour... ça m'intéressait plus.
Et quand le filmeur que vous êtes n'a pas de caméra entre les mains, Alain Cavalier, qu'est-ce qui se passe ?
Ben, vous avez vos yeux, vous stockez avec vos yeux. Par exemple, je vous vois, hein, puis je fais un panoramique derrière la vitre, là, je vois les gens qui sont derrière la vitre. Je filme, là.
Vous êtes en train de filmer ?
Mais je filme. Alors, je n'enregistre pas, mais ça fait partie de ma façon d'avancer dans ma vie de filmeur.
Ah, vous me rassurez, parce que moi, je fais pas de la radio filmée, on serait bien embêté, Alain. Quel outil ou quelle extension de vous-même est-ce que c'est devenu, en fin de compte, la caméra ? Parce qu'à vous entendre, on dirait que ça fait partie de votre corps.
Oui, mais c'est surtout que on est devenu exactement comme les peintres ou les musiciens avec leur piano. On est devenu des artisans. On a un outil et cet outil est à nous. Donc on peut être cinéaste avec une caméra qu'on achète à la Fnac. Donc tout s'écroule fondamentalement si on va jusqu'au bout. C'est-à-dire tout le système, distributeur, producteur, acteur, scénario, etc. Et on va voir des films qui sont faits par des personnes seules, et tout d'un coup, on recevra ça en dehors de tous les circuits. Et surtout celui de l'argent, qui est terrifiant, terrifiant.
Ah, vous avez l'air terrifié quand vous en parlez.
Ah oui, 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 parce que s'il y a beaucoup d'argent dépensé, votre liberté est diminuée d'autant, d'autant.
Ce qui m'a intéressé dans le film aussi, c'est que la caméra filme des choses que vous ne regardez pas, parfois. Vous la posez sur une table, pendant que vous êtes en conversation téléphonique, et elle continue de filmer, comme si vous aviez oublié de l'éteindre, cette caméra.
Alors, je vais vous dire, on a quand même deux cerveaux, c'est-à-dire que on enregistre la vie, mais en même temps, on sait comment on l'enregistre. Et quand j'ai posé la caméra et que j'enregistre là-bas, je sais que je donne l'impression qu'elle est posée.
Oui.
Mais je sais aussi qu'elle va enregistrer ma voix qui téléphone, et peut-être celle de la personne à qui je téléphone. C'est-à-dire que c'est à la fois spontané et en même temps très conscient.
Elle vous permet de poser un cadre sur le réel, en tout cas sur tout ce qui se présente à votre regard, d'un paysage qui défile derrière les vitres d'un train, aux phrases écrites sur les pages de votre journal intime. Quelle place d'ailleurs est-ce que vous leur accordez aux mots, Alain Cavalier, dans votre cinéma ?
Bah, c'est-à-dire que si je suis un jeune homme qui a une caméra, et puis je passe une soirée avec une femme délicieuse, hein, ou un homme,
ouais.
Hein, et puis une nuit après, et que j'ai envie de le décrire, hein, bah, je prends une feuille de papier, et je dans tous les détails, je raconte ce qui s'est passé.
Ouais.
Hein, bon. Mais si je suis cinéaste, j'ai pas le droit de le filmer.
Ah bah vous le faites.
C'est impossible.
Ah, vous le prenez le droit de filmer les mots, vous ?
Non, non. Si vous avez quelque chose qui vous dit à une personne, vous n'allez pas sortir votre caméra, etc., etc., ça transformera complètement. C'est-à-dire que tout ce qui est intéressant dans la vie, les 4/5 de ce qui est intéressant, nous sont interdits.
Mais les mots, Alain Cavalier ?
Alors, les mots, quand je ne peux pas filmer dans la journée ce qui est infilmable, les portes qui se ferment, etc., devant moi, j'écris.
Mais qu'est-ce qui n'est pas filmable, au fond ?
Bah, le pouvoir, dès que vous entrez dans des sites de pouvoir, dès que les gens prennent des décisions importantes, etc., vous voyez la porte qui se ferme devant la caméra. Le sexe, il n'existe pratiquement pas. Au cinéma, les gens se frottent l'un contre l'autre et on croit qu'ils s'aiment. Et c'est à mourir de rire, hein ?
C'est à mourir de rire, c'est quand vous le mimez. Aussi heureusement qu'on n'est pas filmé. En tout cas, c'est là où votre cinéma est passionnant, parce que vous nous invitez sans cesse à nous interroger sur ce que c'est qu'une image. Et à plus forte raison, une image de cinéma. Pour vous, c'est quoi, au fond, une image de cinéma, Alain Cavalier ?
Une image de cinéma, pour moi, c'est... Je reviens toujours à ma base. C'est-à-dire, quand j'étais enfant encore, pré-ado, moi, ce qui m'intéressait au cinéma, c'était les grands visages de femmes.
Ah oui ?
Immense visage de femme.
Lesquels ?
Les Vivienne Hormance.
Ah bah ouais.
Dans Carmen. Et j'étais amoureux là. J'étais amoureux fou. Et je me disais, mais c'est extraordinaire. Et comment ça se passe ? Alors je croyais qu'il y avait un jeu optique et que c'était derrière l'écran. Et puis comme j'ai un peu l'esprit d'éduction, j'ai remonté à la filière, il y a un appareil de projection. Et puis après il y a une caméra des gens qui enregistrent, la pellicule... Et puis, il y a la beauté qui est là devant la caméra. Alors, peut-être que j'ai voulu faire des films uniquement pour des raisons érotiques. C'est pour retrouver ces dames.
Hein. Ça me plaît, moi. Hein. On va reparler alors ensemble d'érotisme, de cinéma, de fin aussi, parce qu'il en est tellement question dans ce si beau film qu'est Être vivant et le savoir. Et là, en vous écoutant, je pense à Barbara. Barbara et ses insomnies, tiens, en 1978. Vous êtes sur France Inter avec Alain Cavalier. Boomerang.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment couchés dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, J'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits, qui les aille broutir ailleurs, par exemple dans vos prairies. Labourage et pâturage ne sont pas mes drapeaux de nuit, sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits. J'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies, et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis, ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Et je rêve, que je rêve, qu'on a tué mes insomnies, et que pâle en robe blanche, on les a couchés dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les revoilà mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme les souris, et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pour autant, c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais toutes confondues, peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris. Au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie, madame. Nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis, gravement, au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant ça ne l'est pas non plus, ce n'est pas l'heure en tout cas, mais grand-mère, s'il est revenu, je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies, un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. Mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment, mais s'endorment à la nuit. J'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir, c'est mourir, allez, c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir, c'est mourir, allez, c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis.
Boomerang à Cannes.
On est ici pour fêter le cinéma.
Augustin Trapenard.
Oh, c'est vrai qu'il a quelque chose de cavalier. Hein. Quelque part entre le chevalier de la table ronde, Yvain, le chevalier Huillon, et Tauros, dans Game of Thrones, figurez-vous, avec sa blanche et sage chevelure royale, magnanime, son regard bleu Napoléon, son sourire discret. Il a ce charisme, vous savez, cette autorité naturelle des grands hommes d'État, de cinéma, tout en colmao ce matin, on peut le dire. On a tous le même passé, Alain Cavalier, invité de Boomerang ce matin pour Être vivant et le savoir, ce film qui témoigne, Alain, de votre fascination pour le vivant animé ou inanimé d'ailleurs. On y voit un pigeon blessé, d'autres oiseaux, un chat, mais aussi des courges et autres cucurbitacées dont vous filmez la lente décomposition et que vous arrangez en nature morte. Ces légumes, j'ai l'impression que vous les filmez comme si c'était des corps.
Mais absolument, parce que je trouve que c'est des sculptures formidables. Hein. Alors je les pose sur ma table et puis elles se décomposent au bout de plusieurs mois. Ouais. Quelquefois, elles se ratatinent complètement. Et quelquefois, elles ont des blessures magnifiques.
C'est ça qui vous émeut? C'est la blessure c'est de la courge?
La grande blessure de la courge. Et quand Emmanuel a eu son cancer, je voyais l'intérieur de son corps comme la blessure de la courge. Et ça devait être à peu près ça, grosso modo.
Mais parfois, ça fleurit.
C'est les patates qui fleurissent. Vous les avez pendant 6 mois. Elles durcissent, elles se minéralisent. Et tout d'un coup, elles poussent.
Alors qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette plante ou de cette fleur?
Ben, je regarde, et puis quand ça me lasse ou quand j'en ai trop, je jette.
Ah ben malheureux.
Je jette.
Tout ce temps-là pour le jeter?
Ou je filme, ou je jette.
Vous les jetez pas tout à fait, puisque vous les filmez, filmez beaucoup.
Oui, oui.
Alors au milieu de ces natures mortes, vous placez un Christ aussi, plusieurs Christ même, dont l'un est complètement démembré. D'où elles viennent, ces figurines, ces sculptures, ces icônes, où est-ce que vous les avez trouvées?
Ben, c'est-à-dire, je suis quand même d'une famille chrétienne, hein. Et il y avait au-dessus du lit de mon père un Christ sans bras, parce que en général dans les Christs les bras sont rajoutés puisque hein, et en général les bras sautent au bout d'un certain temps.
Ce qui est malheureux. Ouais.
Et ce Christ m'a toujours fasciné parce que je trouve qu'il a les jambes de Marlène Dietrich.
Allons donc.
Vous avez remarqué?
Ah pas du tout non.
Ah ben moi je l'ai
j'ai
vu.
J'ai pas fait le parallèle Alain.
Je l'ai vu et je me suis dit mais c'est magnifique quand même. Je ne le dirai pas. Hein? Je trouve ça magnifique.
Vous venez de le dire.
Et il a un visage, mais parfaitement émouvant.
Quelle relation est-ce que vous entretenez avec Dieu, vous? Vous qui avez bénéficié d'une éducation très catholique, dont le film Thérèse se faisait d'ailleurs d'une certaine façon le reflet. Votre relation avec Dieu?
Alors, moi, j'ai gardé, pour les évangiles, qui est mon livre de base, une admiration totale pour le style des évangiles. où il y a des petits reportages mélangés de contes, mélangés de petites morales. Ouais. Hein, c'est d'une richesse extraordinaire. Il n'y a pas d'adjectif exagéré. C'est un livre absolument parfait, avec un type au centre qui est un fou. Ça doit être un grand guérisseur. Alors on lui dit qu'il est génial, il se prend pour un prophète, et puis il parle à son père de temps en temps, etc. Alors on dit il déraille. Alors moi je dis il déraille.
L'évangile.
Mais il déraille magnifiquement.
Selon Alain Cavalier.
Il déraille. Donc c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le vis maintenant.
Mais quel impact cette éducation a eu sur la manière que vous avez de regarder les corps, par exemple?
J'ai, les cathos, je veux dire, les corps étaient quasiment interdits.
Pourtant, ils sont partout.
On ne parle pas du corps, on ne parle... Oui, oui. Et un jour, j'ai filmé une statue de Thérèse de Lisieux dans une église, et à côté, il y avait un énorme Christ, et je disais, elle était amoureuse d'un homme nu. Un type tout nu, comme ça, avec juste un petit caleçon de bas. Hein, c'est quand même incroyable. Et on a l'impression que son petit caleçon de bas peut tomber même, hein, qu'il va tomber.
Le corps d'Emmanuel Bernheim, son corps vivant, vous le filmez, Alain Cavalier, en gros plan ou en pied, presque immobile, en train de vous préparer un jus à base de fenouil, dans sa chambre d'hôpital aussi. Quand est-ce que vous avez cessé de le filmer, en fait? À quel moment?
Quand je suis allé la filmer à son traitement de cancer dans sa chambre d'hôpital.
Pourtant, ce qui vous reliait, c'était aussi la caméra.
Oui, mais la caméra future. C'est-à-dire que elle était morte de peur à l'idée d'être filmée. Parce qu'elle avait un visage un peu particulier, un nez un peu particulier, et elle n'aimait pas son visage. Et j'avais fini par la convaincre que ça ne poserait pas de problème.
Pourtant, qu'est-ce qu'elle est belle dans votre film, avec ses yeux.
Oui, oui, mais elle était inquiète. Et je lui avais dit, à chaque plan qu'on fera, comme on aurait tourné tous les deux, sans équipe, sans témoin, à chaque plan qu'on aurait fait, on l'aurait passé sur un écran, et on serait dit, alors, vous êtes d'accord, c'est bien, alors, allez. Ou on le refait. Donc elle était rassurée. Elle était rassurée.
Vous faites comme ça avec tous vos acteurs, vous?
Le dernier acteur, c'était Vincent. Mais Vincent...
Bah, quand même.
Et, oui, mais enfin, on n'était pas acteur. Il n'était pas acteur. C'est-à-dire, il était dans la vie comme moi, acteur et metteur en scène. Et puis, il devenait acteur de temps en temps. On se prenait pour le président de la République ou le Premier ministre. Mais c'était un jeu.
Et quand on est acteur, est-ce qu'on l'est pas tout le temps?
Vincent, il l'est quand même pas mal. Hein. Mais moi, maintenant que je le connais, je fais le tri.
Et vous, tri, l'êtes-vous un petit peu acteur, Alain Cavalier?
Non. Je n'ai jamais dit un texte devant une caméra. Tout ce que j'ai fait devant la caméra a toujours été improvisé.
À un moment de votre film, on vous voit en train d'essayer d'apprendre à Emmanuel Bernheim à manier la caméra. Et ça me fait penser à un extrait de son livre, « Tout s'est bien passé ». Que j'aimerais bien que vous nous lisiez, si vous le voulez bien.
Alors, je retrouve Alain Cavalier à la terrasse d'un café, sur la dalle d'un petit immeuble moderne, près de la clinique. Exactement ça. Il me montre comment fonctionne sa caméra. Je regarde ses doigts sur le boîtier métallique. Les lunules de ses pouces me paraissent immenses, des paupières blanches mi-closes. Hein, vous voyez, c'est vrai. J'essaie. C'est la première fois de ma vie que je tiens une caméra. Je bouge trop, l'image est tremblée. Ça, c'est dans le film. Je recommence, c'est mieux. Alain m'indique à quelle distance me placer, ni trop près, ni trop loin. C'est drôle, c'est dans le film. Il teste le son, mais pas du tout à au même endroit. C'est bon, je peux y aller. En marchant vers la clinique, je me demande si c'est avec cette caméra que je tiens serrée dans ma main qu'il a filmé son père mort. C'était avec cette caméra, effectivement.
Elle avait raison.
Et parce que elle allait filmer son père avait beaucoup de fric. Donc, pour qu'on n'accuse pas ses proches de l'avoir poussé à la mort pour récupérer son argent, il fallait qu'il déclare devant une caméra, je suis lucide, je m'en vais et je témoigne.
Filmer son père, l'image à laquelle Emmanuel Bernheim fait référence, c'est une image que l'on trouve dans Le Filmeur, votre film, en l'occurrence celle de la dépouille mortuaire de votre père, cette dernière image. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de la faire, vous, Alain Cavalier?
Parce qu'il est dans la grande maison et il était étendu dans le salon, mort, et puis les chambres étaient occupées par des gens qui venaient pour son enterrement. Moi, j'étais dans une des chambres. La nuit, je me réveille et je me dis, je vais aller le filmer. Mais j'avais peur de le filmer et j'avais peur qu'on me voie, un membre de ma famille me voie le filmer. Alors, je suis descendu en douce, en bas. J'ai allumé une loupiote et j'ai vu mon père mort. J'ai réussi à m'approcher de son cadavre. Il y avait le bruit d'un moteur, parce que réfrigérant, pour le conserver un petit peu. Je le regarde et puis je vois qu'il avait un grand nez. Ça m'avait toujours fasciné. Il avait un grand nez. Moi, j'ai le petit nez de ma mère, mais il avait un grand nez. Et je m'approche et je touche son grand nez avec le doigt, comme ça, qui était tout froid. Et à ce moment-là, j'ai pu le filmer de profil, etc. J'ai fait une sorte de reportage sur lui. J'avais vaincu la peur de filmer un mort.
Parce qu'au départ, c'était interdit.
Filmer mon père mort, c'était, il y avait un interdit. Il y avait un mur de verre qui m'empêchait de le faire. Mais passer le nez d'un mort froid qui est son père, c'est pas mal. Hein. Ça vous amène à quelque chose de très costaud. Voilà. Je me passe le nez, là, je suis froid, je suis mort, là. Je peux m'imaginer.
Quand le corps disparaît définitivement, qu'est-ce qui reste, en fin de compte?
Il reste les images de film.
C'est pas mal, ça.
C'est pas grand-chose, mais c'est formidable en même temps.
C'est pour ça que vous en faites?
Je crois un peu aussi. C'est par amour des visages de femmes au début, et après c'est pour essayer de conserver un peu la vie au-delà de la limite.
Merci infiniment, Alain Cavalier, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle qu'être vivant et le savoir sort le 5 juin, c'est une déclaration d'amitié d'une rare intensité. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Don't even gotta try.
Freedom,
I like shouting, make it better over time.
Freedom,
they just say I'm not the baddest bitch you like.
Juice, Lizzo sur France Inter, tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers.
On est là, Augustin, et à demain.
À demain.